Bonjour et bienvenue sur l'émission
Souviens-toi,
la rétrospective 2022-2023.
Bonjour, et on va commencer cette rétrospective par la journée de l'engagement. Le 22 septembre dernier, s'est déroulée dans la cour du lycée Angot la journée de l'engagement. Cette journée a été organisée par les CPE, Madame Hervieux et Madame Mbodji, par la professeure de SES, Madame Duplessis, et avec l'aide de l'AED Kevin. Durant cette journée, des stands ont été installés devant la grille à l'intérieur du lycée. Chacun de ces stands ont été occupés par différentes associations, comme l'UNICEF ou la Croix-Rouge. Le but de la journée était de permettre aux lycéens et particulièrement aux secondes de découvrir les engagements lycéens possibles. D'ailleurs, plusieurs classes de seconde qui avaient cours de SES ce jour-là ont quitté leur salle avec leurs professeurs et ont pu découvrir tous les stands qui avaient été construits. En tout, 8 associations, institutions et groupes de personnes ont été représentés. Il y avait le groupe d'élèves du CVL ou Conseil de vie lycéenne, la Croix-Rouge, représentée par Madame Christine Schuer, Monsieur Florent Bussy représentait le dispositif Nettoyons nos rues. Julie et Mathias animaient quant à eux le stand de la bibliothèque de Jade Prévert. Le stand qui a eu le plus de succès est celui de la PMM, ou Préparation Militaire Marine. En effet, de nombreux élèves ont été intéressés par ce stand. Monsieur Thériez, maître principal, et Monsieur Brébel ont animé toute la journée ce stand et permis aux intéressés de pouvoir obtenir des informations concernant l'engagement militaire. Mais la journée de l'engagement n'est pas la seule à proposer un engagement aux jeunes. En effet, il existe aussi la JDC, ou Journée Défense et Citoyenneté, qui est obligatoire pour tous les jeunes de 16 à 18 ans, et qui propose aussi un engagement militaire aux adolescents. Voilà, c'est tout pour la journée de l'engagement. Maintenant, nous allons faire un saut temporel et aller au 23 janvier avec le repas allemand. Mathilde et Étienne, c'est à vous.
Les trois en section euro-allemand. Et vous avez préparé un repas allemand en janvier 2023, comme tu viens de nous le dire. Mais alors, expliquez-nous un peu votre matinée.
D'abord, merci de nous inviter. En effet, nous étions 12 à préparer ce repas qui a eu lieu durant une semaine dédiée à l'amitié franco-allemande qui est apparue avec la signature du traité de l'Élysée entre les deux pays. Nous avons préparé les desserts et l'entrée chaude beaucoup appréciée des élèves. Je vais laisser la parole à Étienne qui a contribué à préparer les Linzer Torte.
Oui, alors nous avons commencé peu après 8 heures et équipés comme des soignants.
Ah oui, mais que deviez-vous porter ?
Eh bien, nous avions une sorte de blouse blanche en plastique, nous avions des surchaussures pour ne pas salir le carrelage des cuisines et une charlotte sur les cheveux.
Vous étiez bien équipé finalement.
C'est ça. Et puis Pierrette, la cuisinière chargée de nous superviser, nous a expliqué de manière très brève ce que nous devions faire et nous a montré les aliments qu'elle avait pesés et préparés la veille. Notre groupe chargé de la Linzer Torte s'est dispatché et j'ai cassé 75 œufs avec Léna pendant que deux filles de terminale versaient les aliments solides dans un immense récipient.
Si vous nous parlez de 75 œufs, la quantité de farine et de sucre devait être démesurée.
En effet, il y avait 40 kilos d'aliments mélangés. Ce sont des quantités énormes, mais pour nourrir le lycée entier, c'est ce qu'il fallait.
C'est énorme, mais c'est une super matinée, ça, n'est-ce pas?
Ouais, très bien.
Mais alors, Mathilde, explique-nous ce que tu as fait et ce que tu as vu, toi.
Nous avons fait une flammenkuchen, Jacob, Carla et moi. C'était assez simple à faire et très amusant. Nous avons beaucoup rigolé. Ensuite, nous avons aidé à nettoyer la cuisine et nous avons décoré le self. Avec l'aide des terminales, nous avons accroché des affiches, des banderoles et des drapeaux allemands et européens.
Eh bien, merci d'être venu nous raconter cette journée. Mais ce n'est pas encore fini, je vous laisse la parole. Vous avez encore beaucoup de choses à nous raconter, je crois.
Après le concours du pull de le plus moche qui s'est passé en décembre dernier, Madame Cordier, professeure documentaliste, a organisé le concours de nouvelles internes au lycée et avec d'autres établissements. Les collèges de Brac à Dieppe, de Metterling à Luneray. Le thème de cette année était l'horloge, et je pense qu'il n'y en a plus d'un qui a passé du temps sur ce projet d'écriture. Beaucoup ont été intéressés par le sujet et ont déposé leurs nouvelles au CDI. Le concours s'est terminé en janvier et le jury a élu les grands gagnants en février. Roulement de tambour. Les gagnants du concours interne au lycée Angot sont Carla Leroux, Cyril Lestrat et Mathilde Razès. Pour nous donner un aperçu de leur magnifique travail, je vais vous lire une partie de la nouvelle de Carla Leroux qui s'intitule « Elle ». Et Colin courait, courait. L'angle aigu de l'horizon serré entre les maisons se précipitait vers lui sous ses pas. Il faisait nuit, une nuit d'ouate noire, amorphe et inorganique. Et le ciel était sans teinte, un plafond, un angle de... Solange s'arrête soudain dans sa lecture et pose violemment ce Boris Vian à la couverture bleue sur la table de chevet de Madame Pationeska. Cette dernière, qui écoutait somnolente, il y a quelques instants encore, les mots qui rendent l'écume des jours si particulièrement étanche, s'est mise à convulser à la cadence d'une maladie qui touche à son terme. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez envie de la lire. Mais pourquoi est-ce que le jury a choisi cette nouvelle? C'est la question que j'ai posée à Madame Cordier, organisatrice du concours.
Est-ce que les retours des élèves sont bons par rapport au concours?
La plupart des élèves qui participent, soit ils le font en classe avec leur professeur, soit ils le font librement. Et les élèves, du coup, qui le font librement, c'est des élèves qui aiment écrire. Et oui, évidemment, leurs retours sont bons. Après, je pense que des fois, peut-être qu'ils aimeraient choisir le thème. Ça pourrait être une idée, hein, qu'on fasse un vote autour du thème. Et puis, malheureusement, avec les résultats, certains sont déçus parce qu'ils ont donné beaucoup de leur temps personnel et puis que ça n'a pas été plébiscité. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un bon écrit ou... Voilà, c'est juste que les personnes qui ont décidé de voter ont moins aimé, voilà.
Qui sont les gagnants de cette année?
Alors, cette année, il y avait 4 personnes qui sont arrivées ex aequo, hein. Et donc, il y a une personne qui n'a pas été retenue parce qu'en fait, un des jurés m'a signalé que son histoire ressemblait terriblement à une fiction qui est parue sur Netflix. Donc, ça ressemblait, mais ça ressemblait tellement que, y compris l'épilogue, en fait, ressemblait. Donc, j'ai choisi de la mettre de côté. J'ai gardé les 3 qui avaient le même nombre de voix. Voilà.
Merci Madame Cordier pour cette interview. J'ai aussi demandé à Madame Bamka, professeure documentariste au collège Georges Braque, qui est l'origine de ce projet. Pourquoi elle l'a créé?
Depuis quand le concours de nouvelles a commencé?
Bonjour. Alors, le concours de nouvelles existe depuis à peu près 2013. J'ai plus la date exacte, mais ça fait 2013.
Quel est l'intérêt pour les élèves?
Donc pour les élèves, il y a plusieurs intérêts, plusieurs réponses. Ça permet aux élèves volontaires, hein, c'est sur la base du volontariat, ça permet aux élèves volontaires de pouvoir écrire sur un thème qu'ils n'ont pas choisi au départ, donc de réfléchir au processus d'écriture. Ça permet à des élèves qui ont envie d'écrire mais qui n'ont pas forcément d'idées de thème, voilà, de réfléchir à ça. Ça permet aux élèves qui sont un peu timides de pouvoir s'exprimer aussi autrement. Et puis membres du jury, de faire de belles découvertes. On n'imagine pas toujours que nos élèves sont capables d'écrire d'aussi belles nouvelles. Régulièrement, on a des très belles surprises. Et puis, outre la partie écriture, c'est aussi un moment de rencontre entre des élèves de plusieurs établissements. Donc, c'est aussi intéressant pour eux de rencontrer des élèves plus âgés ou du même niveau qu'eux, mais d'autres établissements. Ça leur permet d'échanger aussi sur des pratiques pour les collégiens, de voir un peu ce que c'est que le lycée et un CDI de lycée.
Quel niveau participe le plus?
Il n'y a pas de niveau au collège, en tout cas dans mon collège. Parfois, ça peut être peut-être un peu plus les cinquièmes, mais pas forcément. Ça dépend vraiment des années. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que des élèves commencent à participer une année et ont envie de continuer à participer d'autres années. Donc, des élèves qui auraient commencé en quatrième vont continuer en troisième et des élèves qui auraient commencé en sixième ou cinquième vont continuer les autres années. C'est pas le cas de tous les élèves, mais il y en a beaucoup. Donc, il suffit que, aussi par le bouche à oreille, un élève de cinquième dise à ses amis « Ah, bah moi, je fais le concours de nouvelles. » Hop, d'autres élèves de la même classe s'inscrivent ou du même niveau s'inscrivent et puis ils continuent. Donc, non, il n'y a pas vraiment, de niveau qui se dégage le plus. Ça dépend des années, en fait. Ouais.
Depuis quand est-ce que ce concours est interscolaire?
En fait, quand on a créé le concours avec Michael Bréant, qui était à l'époque professeur documentaliste du lycée Pablo Neruda, qui maintenant est principal adjoint au collège d'Offranville, quand on a créé tous les deux ce concours, c'était dans la volonté de faire ce qu'on appelle la liaison collège-lycée, donc de faire en sorte que des collégiens voient un lycée dans lequel ils sont susceptibles d'aller à peu près la troisième, et notamment un CDI de lycée. Donc dès le départ, ce concours était entre deux établissements différents, donc le collège Braque et le lycée Neruda. Plusieurs années plus tard, on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'ouvrir ce concours à d'autres établissements scolaires de la région liépoise pour des facilités de communication, de transport, de budget. Et donc, on a proposé à d'autres lycées, notamment le lycée Angot, qui a répondu présent, et puis le collège de Luneray, qui participe depuis plusieurs années aussi. On a eu d'autres collèges, comme le collège d'Offranville, le collège de Buchy, qui ont participé une fois ou deux. Ça fait depuis 2016-2017.
Est-ce que c'est juste des professeurs documentalistes qui s'occupent du concours ou ça peut être d'autres professeurs comme des professeurs de français
Alors, ce concours, il est organisé par les professeurs documentalistes des établissements qui participent. Il est voilà, co-organisé par nous. Mais bien entendu, durant les deux étapes du concours, donc la première étape qui est le choix des nouvelles préférées dans chaque établissement, là, évidemment, tous les adultes de l'établissement lisent les nouvelles proposées et donc dans les adultes, il n'y a pas que les professeurs documentalistes, il y a différents professeurs de différentes matières, mais aussi, alors dans mon établissement c'est le cas, mais je crois que c'est a priori à peu près le cas dans tous les autres établissements, il n'y a pas que des enseignants qui lisent les nouvelles, il y a aussi d'autres adultes qui ont d'autres corps de métier comme le pôle santé, les collègues qui font partie de la vie scolaire, le personnel de direction, etc. Donc voilà, c'est co-organisé par nous, professeurs documentalistes, mais autant dans le premier tour que le deuxième tour du concours, d'autres adultes des établissements scolaires sont présents.
D'où vous est venue cette idée de créer le concours de nouvelles?
Donc, dans l'établissement où j'étais avant, c'était le CPE qui avait organisé un concours de nouvelles parce que lui-même écrivait, en fait, lui-même était auteur de polar et il avait impulsé cette idée et cette envie d'écrire à un certain groupe d'élèves. Donc tous les ans, depuis plusieurs années, il organisait ce concours de nouvelles. Quand je suis arrivée dans l'établissement, je me suis greffée à lui, je l'ai aidé à organiser et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et donc quand je suis arrivée à Braque, j'ai eu envie de continuer l'idée de concours de nouvelles. Et comme en fait, Monsieur Bréant était donc le professeur documentaliste du lycée Neruda et que je le connaissais de l'établissement où j'étais avant, il travaillait dans un établissement proche de là où j'étais, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire un concours de nouvelles entre son établissement et le mien pour justement travailler sur cette liaison école-collège-lycée, donc plus particulièrement collège-lycée, puisque mes élèves de Braque vont pour certains au lycée Neruda. Ça permettait donc aux élèves de Braque de voir un peu ce que pouvait être le lycée, et en particulier le lycée Neruda et son CD, d'avoir cet échange en fait entre collégiens et lycéens.
Merci Madame Mabka pour cette merveilleuse interview.
Merci.
Et maintenant, on passe à la Journée internationale des femmes. Chaque année, cette journée se passe le 8 mars. Pendant cette journée, il y a des mobilisations dans les rues, des marches, etc. Au lycée, les élèves qui participent à l'une des 16 danses nous ont proposé une magnifique chorégraphie que vous pouvez retrouver sur l'ENT du lycée. Ce projet a été organisé par Madame Lourdel, professeure de PS, et Madame Mboji, CPE au lycée Jean Angot. J'ai posé quelques questions à cette dernière.
Il attache de l'importance puisque le fait que je sois déjà une femme et puis je suis attachée à l'égalité des droits. L'an dernier, dans le cadre de la journée, quand on est avec Madame Lourdel, elle est dans une thématique, parce qu'on peut toucher sur différents points. Ça peut être par la parole, par des conférences, mais par la danse. Et après, il y a aussi des échanges avec d'autres professionnels comme, je sais pas, l'infirmière, une sage-femme, les individus, les êtres humains, donc les élèves aussi. Vous êtes tous différents et vous pouvez être touchés ou sensibilisés par différentes portes. Donc quand j'ai vu les élèves, ça m'a fait plaisir. Et puis de voir qu'il y a cet engagement-là, et puis je dirais... Donc l'année dernière, on a commencé par un flash mob, mais on a vu que c'était plus ceux qui dansaient déjà à l'UNSS Danse qui étaient les plus grands participants. Mais on a constaté aussi que par contre, les élèves pouvaient venir regarder. Mais ils sont quand même sensibles à regarder, parce qu'ils ont regardé, je pense qu'ils ont apprécié. Donc là, on s'est dit, on va changer la formule et peut-être mettre plus à l'honneur des élèves qui dansent et qui ont envie aussi, parce que quand on fait de la danse, on veut aussi le montrer. Bon, si c'est des célébrités, Mère Teresa, déjà, ça c'est jusqu'à aujourd'hui, et ma mère. Mère Teresa, par sa générosité, parce que je pense que j'ai pas vu quelqu'un. C'est vraiment l'exemple d'une personne qui a vraiment donné tout, et pour les autres. je suis très pour la fraternité. Donc, et je trouve qu'elle, elle y allait au bout de ça. Et ma mère, pour son esprit de justice.
Merci beaucoup, Madame Mbodji. Et maintenant, restons zen avec la journée bien-être. Namasté, mes frères et sœurs. J'espère que vous êtes en harmonie avec tout ce qui vous entoure. C'est ça, la clé du bonheur. Et le lycée Ango a pris soin de ses élèves pendant cette belle journée du 3 avril. Toute la journée, il y a eu des animations, des apparitions de l'ENSS danse à la cantine, des infusions gratuites aux récréations dans le hall des portraits, et même une initiation à la sophrologie dans le gymnase. Cette journée, sous le signe de la zénitude, a été organisée par Madame Lourdel, professeure de PS et les CPE. J'espère que les élèves ont pu profiter de cette journée zen. Et maintenant, nous passons au voyage à Weimar qui a commencé le 10 avril.
Nous voilà bientôt à la fin de notre émission. Nous avons invité sur le plateau Jacob et Mathilde, qui sont élèves en seconde euro-allemand et qui sont partis à Weimar en Allemagne pendant 3 jours en avril. Ils sont ici pour nous faire partager leurs souvenirs de voyage, leurs visites et peut-être même raconter quelques anecdotes sur ce séjour linguistique et culturel.
Bonjour.
J'espère en tout cas que vous êtes contents d'être ici avec nous. C'est parti, on vous écoute sur Radio des Falaises.
D'abord, commençons par vous présenter la ville de Weimar. Elle possède 60 000 habitants et est située en Thuringe, dans l'est de l'Allemagne. C'est une ville très connue par son histoire et son immense culture. Goethe y a notamment vécu 50 ans et y était très engagé politiquement. On retrouve aussi au nord de la ville, sur le plateau d'Ettersberg, le camp de Buchenwald, très connu en Allemagne. Il a été construit par les SS en 1938. Sa particularité est qu'il est situé à 420 mètres d'altitude et en allant sur place, le vent et le froid étaient bien présents. En hiver, à cette période de l'histoire, la température pouvait descendre en dessous de moins 30 degrés. Enfin, cette ville a connu l'essor du style artistique et architectural du Bauhaus. Un musée a ouvert en 2019 et nous avons eu l'occasion de le visiter.
C'est une ville très intéressante à visiter, si je comprends bien.
Exactement. Je laisse Mathilde vous nous présenter le musée et la maison Goethe.
Pour ma part, j'ai adoré cette visite très constructive sur Goethe. Le musée présente plusieurs portraits de Goethe et de nombreux objets qui lui appartenaient. La guide nous a surtout parlé de la relation amicale entre Goethe et Schiller, le meilleur ami de Goethe entre guillemets. On nous a expliqué que leur différence de taille n'avait jamais été représentée. Schiller a aussi offert la maison d'écorce dans le jardin de l'Ilm à Goethe à son arrivée à Weimar. C'est une maisonnette toute en écorce au bord de l'Ilm. Les deux philosophes passaient beaucoup de temps dans ce jardin pour se baigner dans la rivière ou réciter des textes au milieu des arbres. Nous avons visité sa maison qui est en centre-ville, dans laquelle on peut y voir une partie de sa collection de pierres précieuses, son mobilier d'origine et son jardin. Il y avait aussi beaucoup d'objets mythologiques.
Merci beaucoup Mathilde pour cette présentation littéraire. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Moi qui suis aussi partie, je vais vous parler du camp de concentration et du musée. Ce camp est construit en 2 parties. Le camp qui est encerclé par des barbelés et l'unité de vie des SS. On a vu les restes des rails et des quais de l'ancienne gare où étaient acheminées les marchandises, puis les prisonniers. Nous avons ensuite vu un court film qui nous expliquait le développement du camp. On est ensuite descendu vers le bâtiment qui faisait office de porte, mais aussi de prison. Dans le camp, nous avons pu voir les anciens emplacements de baraquement des prisonniers qui ont été détruits après la guerre. On a pu aussi rentrer dans le crématoire du camp, dans lequel on trouvait une table de dissection, des ustensiles de torture et 6 fours. On retrouvait plus bas dans le camp la souche du chêne de Goethe devant le musée. Dans le musée du camp, on pouvait voir d'anciens vêtements de détenus, des objets de la vie quotidienne comme des casseroles. Il y avait aussi de plus gros objets comme un chariot qui devait être utilisé pour déplacer les cadavres dans le camp ou une installation en bois pour la pendaison. Il y avait aussi une maquette du camp en 1944. Nous avons pu, à la fin de la journée, nous rendre au mémorial, qui est immense et inspiré d'une architecture romaine. On y retrouve des stèles montrant la souffrance des détenus et 3 fosses au milieu d'arènes romaines. Au sommet, il y avait la tour du mémorial avec l'inscription 1945 en chiffres romains. Nous avions de là une belle vue sur toute la vallée.
C'est vrai que le mémorial était magnifique. Il a d'ailleurs été construit par le gouvernement de la RDA en 1958. En restant dans cette période de l'histoire, je vais basculer sur le musée de République de Weimar que nous avons également visité. Il n'est pas très grand, mais très intéressant. La République de Weimar a été la première République d'Allemagne, ce qui a d'ailleurs fait assez peur aux gens de l'époque. Ils devaient s'habituer à prendre des responsabilités et oublier le fait de se faire mener. C'était enfin le moment où les hommes et les femmes ont obtenu le droit de vote. On retrouve dans le musée beaucoup d'affiches de propagande de l'époque, ainsi que des articles de presse. Il y avait aussi une immense carte de l'Allemagne au moment de la proclamation de ce régime. Pour la petite anecdote, cette république devait être proclamée à Berlin, la capitale, mais de fortes tensions étaient présentes durant l'entre-deux-guerres, comme la tentative du coup d'État d'Hitler qui éloignait la république de Berlin à Weimar.
Ce musée nous a servi de cours d'histoire et celui du Bauhaus de cours d'art. Ce musée est très moderne puisqu'il a vu le jour il y a 4 ans. La guide du musée nous a d'abord expliqué que le style du Bauhaus avait été oublié après la fermeture de son école en janvier 1933 par Hitler. Et jusqu'à l'ouverture de ce musée par la ville, les Weimarois ne connaissaient pas du tout ce mouvement qui a inspiré certains gratte-ciels de Chicago et de New York. Le musée renferme beaucoup de meubles, d'œuvres d'art, comme des sculptures et des tableaux, et même de la vaisselle et de la verrerie. La visite a été courte, mais originale.
Merci Jacob et Mathilde pour votre présence sur le plateau. Un voyage inoubliable pour ma part, et je pense que vous aurez le même avis. Je laisse maintenant la parole à Candice, qui a interviewé Vincent Mondiaux.